Bonjour à tous. Nous poursuivons notre lecture de l'Épître aux Romains. Et on arrive au chapitre 6 aujourd'hui. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans ce passage ou à chercher sur vos smartphones le chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Est-ce que je me rapproche ou pas? C'est bon? Ouais. Je bouge pas. Ok. C'est ça le plus dur. Romains 6, donc on vient dans la progression de la lettre. Paul a établi que quelque part, voilà, notre monde est cassé, qu'il ne fonctionne pas bien, et que mais il fonctionne quand même, mais pas bien. Et le fait que ce monde soit cassé, brisé, vient du fait que les humains sont révoltés à Dieu. Ils préfèrent quelque part de l'idolâtrie, préfèrent des demi-solutions, des solutions court terme, des choses qui, bon, après moi le déluge, plutôt que de se tourner vers Dieu et chercher en lui le vrai chemin. C'est ce que Paul affirme. Il affirme que quelque part, même les Juifs qui avaient reçu la loi de Dieu, la Torah, le Pentateuque dans nos Bibles, n'ont pas réussi à faire mieux que nous, que les païens, ceux qui n'avaient pas la loi, mais simplement ils ont vu avec plus d'acuité les sources et l'origine du péché dans leur vie. Cette révolte, cette rébellion, quelque part qui traîne au fond de nous, et le fait qu'on cherche plutôt des solutions par nous-mêmes, plutôt que de se tourner vers Dieu. Et dans tout ça, Paul fait apparaître la figure du Christ comme celui qui va nous délivrer nous sortir de cette ornière et nous offrir réellement une possibilité de reconnecter avec notre Dieu, de nous réconcilier avec lui et d'obtenir la justice. Alors, obtenir la justice, ça veut dire comparaître juste devant Dieu malgré nous. Et il vient de faire ce grand parallèle là au chapitre 5 entre Christ et Adam en disant, mais voyez, Adam, il a fait un choix qui nous a tous entraînés dans ce mauvais choix. Et on avait vu que oui, nous sommes des créatures relationnelles. Si mon père déménage aux États-Unis et que j'habite aux États-Unis, je vais naître dans une culture américaine et ce n'est pas ma faute, ce n'est pas mon choix, c'est le choix des parents qui a des conséquences sur ma vie. Et de la même manière, le choix d'Adam a eu des conséquences sur la vie de tous ses héritiers. Mais ce que Paul révèle, c'est qu'en Christ, nous avons la possibilité de changer d'héritage et d'obtenir un nouvel héritage bien meilleur, un héritage fondé sur la grâce. Je ne vais pas refaire toute la prédique de dimanche dernier. Mais c'est là que Paul reprend au chapitre 6. Nous avons changé d'héritage et maintenant, l'ordre des choses dans lequel nous vivons est fondé sur la grâce de Dieu et non pas sur la loi. Je reprends. Chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ah, certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment est-ce que nous vivrions encore dans le péché? Est-ce que vous ignorez que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire de Dieu le Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, que nous ne soyons plus des esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché, libéré. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Sachant que Christ est ressuscité d'entre les morts, il ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant, il vit. Il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme arme pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà un texte d'une richesse incroyable. Incroyable. Bon, alors, quand il y a des gros péchés, Dieu fait couler des cieux une grâce encore plus grande. Eh bien, si on veut que le monde soit rempli de la grâce de Dieu, peut-être qu'on peut persévérer dans le péché. Comme ça, les écluses de grâce des cieux vont se déverser et inonder la terre. Et Paul dit non. Ce n'est pas par ce moyen-là que nous sommes appelés à faire couler, effectivement, c'est notre but, la grâce de Dieu dans ce monde. Ça passe par nous, mais pas en persévérant de manière résolue dans le péché. Vous savez, il y a parfois, on me racontait comme ça en Algérie, des chrétiens kabyles qui voulaient montrer la grâce de Dieu à leurs confrères musulmans. Et alors, ils se bourraient à l'alcool et montraient à quel point ils étaient libres en Christ, plutôt que eux. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas comme moyen de convaincre l'autre de sa liberté en Christ. La liberté que nous obtenons en Christ, ce n'est pas « Regarde, moi au moins, je peux faire ce que je veux, toi non. » Mais bien plutôt ce que dit Paul, « Je suis quitte du péché. J'ai la possibilité, je trouve en moi la ressource avec ma relation à Dieu de m'en affranchir. » Je reviens sur cette grâce qui coule des cieux sur la terre à travers nous. Nous sommes effectivement les canaux, les tuyaux par lesquels cette grâce coule. La grâce que j'ai reçue, le pardon que j'ai reçu, l'amour inconditionnel que j'ai reçu, je suis appelé à le transmettre. Pas uniquement en disant « tu sais que Dieu t'aime inconditionnellement, tu sais que Dieu te pardonne ». Oui, disons ça, c'est l'évangélisation, proclamer le Christ. Mais aussi en nous efforçant nous aussi de pardonner, nous aussi d'aimer sans condition comme Christ nous a aimés. Être ce canal de grâce. Donc je fais abonder la grâce dans ce monde, non pas en disant ben, « regarde comme mon Dieu me pardonne mes énormes péchés ». Non, ça ne marche pas. Mais bien plutôt, en manifestant, en incarnant quelque part cette grâce, en la rendant visible. Vous savez que Christ nous dit « c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous verront et ils vont savoir que vous êtes mes disciples ». Cet amour qu'on a les uns entre les autres, rend visible cette grâce de Dieu. Alors, on ne va pas persévérer dans le péché, ça va. Ignorez-vous que vous qui avez été baptisés en Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Ça, c'est plus compliqué déjà. De quel baptême est-il question ? Il est question du baptême de l'Esprit, d'accord ? J'aimerais qu'en baptisant d'eau, je puisse plonger quelqu'un dans la mort du Christ, ça ne marche pas. C'est une réalité spirituelle. D'accord ? Je ne sais pas si vous étiez là au baptême de Pierre Chalvic. lui avait offert un objet un peu étrange pour symboliser son baptême. Tu t'en souviens, Pierre? C'était des poivrons marinés, ça? Des poivrons marinés. Pourquoi est-ce que j'avais offert à Pierre des poivrons marinés? Pour expliquer qu'en fait, le terme grec baptizo, c'est une immersion. Et en fait, c'est une immersion qui change la nature des choses. On avait trouvé un vieux texte grec comme ça, d'un physicien qui écrivait des tas de choses sur des tas de sujets, et il avait écrit une recette pour faire des conserves de légumes. Et pour faire ces conserves de légumes, il allait bapto, donc plonger comme ça, les légumes dans l'eau bouillante pour les stériliser. D'accord ? Et après, il allait les baptizo dans le vinaigre. Alors quand il les baptizo dans le vinaigre, c'est-à-dire qu'il les met dans le bocal à vinaigre et puis qu'il ferme et qu'on n'ouvre plus jusqu'à qu'on les consomme. Et donc là, le cornichon, il va changer sa nature. D'accord ? Sa chair va s'imprégner du goût. Et vous savez qu'un cornichon, avant de passer par le vinaigre, il a le goût d'un concombre. Hein. Après, ça a le goût du cornichon parce qu'il est imprégné de ça. Quand nous sommes baptisés en Christ, nous sommes plongés en lui et on ferme le couvercle jusqu'à la consommation. C'est quand la consommation ? Quand Jésus revient. Vous ne sortirez pas du bocal avant que Jésus revienne. Vous êtes baptisé en lui. Et de la même manière que ce vinaigre va changer la chair du cornichon ou du poivron mariné, ça marche aussi. D'être baptizo, immergé dans Jésus, ça va changer ma propre nature. Vous êtes des marinades de Christ. Et vous ne sortirez pas du bocal avant le retour en gloire de Jésus sur la terre et la consommation finale. Je file la métaphore. Vous savez que ce jour où Christ revient, il revient chercher sa fiancée, son épouse. Mais quelque part, les noces n'ont pas été consommées encore. Ils sont chastes, Christ et son épouse. Donc il y a vraiment une consommation qui va avoir lieu à la fin des temps, comme on dit, où en fait nous allons vivre une nouvelle forme d'existence. D'accord ? Vous ne serez plus dans cet entre-deux, entre ma vieille nature et ma nouvelle nature, mais nous serons pleinement existants dans la nouvelle nature, et uniquement dans la nouvelle nature, physique et spirituelle. Ça va ? Pourtant, Paul semble aller un peu plus loin que cette espérance future. Si on croit à ce qui est écrit ici, il nous dit que cette nouvelle réalité nous est déjà accessible aujourd'hui. Il dit que notre nouvelle nature a été crucifiée avec Jésus, d'accord ? Il dit que nous sommes acquittés, libérés du péché, libérés de la mort, libérés de vivre pour l'injustice. Pourtant, vous et moi, on n'y arrive pas, on est d'accord ? Mais ce que Paul est en train de dire, c'est que autant avant que vous soyez baptizo dans le bocal de Christ, vous n'aviez pas le choix. Il vous aurait été impossible de faire autrement. Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, maintenant que vous êtes en Christ, vous pouvez faire un autre choix. Et pourquoi ça ? Parce que vous avez un autre moteur. Vous êtes passé du diesel qui pollue à l'hybride. Maintenant, vous pouvez tourner à l'électrique. Si, si. Mais nous sommes intoxiqués, habitués, sûrs, saturés en fait de nos habitudes et de nos réflexes d'une vie marquée par la mort, par la culpabilité, par le péché. Et il nous est tellement difficile de tracer un autre chemin, de tracer un autre chemin. Mais Paul nous dit, vous êtes réellement libre. Vous avez réellement été affranchi. Vous ne devez plus rien à ce monde et à son système pour le servir encore. Mais est-ce que vous le croyez ? Je vais prendre un exemple très concret pour vous, pour moi, et je vais rentrer dans l'intimité. Je suis un fumeur. J'ai commencé à fumer à l'âge de 18 ans. Et en fait, aujourd'hui, quand je réfléchis à ma vie, je ne l'envisage pas sans fumer. C'est comme si j'avais oublié qu'est-ce que ça fait que de vivre sans. Ce texte-là va me dire quoi ? Il me dit c'est faux. Tu peux le faire. Tu ne lui dois rien. Si tu marches à ma suite, tu en es déjà libre. Mais pour le vivre, il faut que je le croie, pas que je le sache. Il faut que je le croie, pas que je le sache. Ça, c'est pas facile. Parce que là, il y a un exercice pour fortifier la foi. Se mettre à l'épreuve soi-même. Et prouver qu'est-ce que l'on croit, vraiment. J'ai une amie qui me racontait comme ça. Elle a eu un AVC. Et elle est tombée par terre et elle se sentait partir. Et son mari tombe sur elle et lui prend la main et elle se réentend l'exhorter. Écoute, il faut que tu me laisses partir, il faut que tu sois fort et surtout, tu ne quittes pas l'église. Et plus tard, elle me raconte, j'avais pas peur. Je savais où j'allais et tout mon souci était pour ma famille qui restait. Elle me dit, mais tu sais, Timothée, je ne savais pas que j'avais autant la foi. D'accord ? Si votre foi, c'est un filet de rappel, une voilà, corde qui vous assure, vous montez la paroi et vous ne tombez jamais. Vous éprouvez jamais la sensation de vous faire retenir par la corde de rappel. Cette femme-là a été confrontée à sa mort et au moment où elle était confrontée à sa mort, elle découvre qu'en fait, la corde la tient fermement. Elle a la foi. Elle sait où elle va. Elle ne doute pas de son avenir. Mais il fallait quelque part qu'elle passe par cet AVC. Je ne dis pas que ça a été envoyé par Dieu. Mais grâce à cet accident, quelque part, elle a découvert que oh, ma foi est stable. Je peux peser dessus. C'est une différence entre croire et savoir. On peut l'appeler comme ça. Où la connaissance intellectuelle est une connaissance vécue, éprouvée. D'accord ? Un parachute qui, d'après toutes les modélisations mathématiques, fonctionne et s'ouvre, et un parachute qui a été testé. Vous préféreriez quoi ? Sauter avec un parachute neuf qui n'a jamais servi, ou un parachute qui en est à sa troisième ou quatrième saut et qui s'est ouvert à chaque fois ? On préfère celui qui a fait ses preuves. De la même manière, il y a en moi une foi sur laquelle je n'ose pas m'appuyer pour, par exemple, me rendre libre ou laisser Christ me rendre libre. Je n'arrive pas, je n'ose pas à... C'est comme si j'avais un pont à franchir et qu'en face de moi, je ne sois pas sûr de la solidité de ce pont. Les Écritures me disent « il est fiable, il est solide ». N'hésite pas, traverse-le et tu seras libre. Il y a en vous une puissance de libération maintenant, parce que l'Esprit de Dieu a pris place en vous. Il y a en vous, en nous, une possibilité de choisir pour qui on court, pour qui on joue, pour qui on travaille. Et vous vous rappelez, à Pentecôte, je vous avais fait réfléchir sur cette réalité que on se représente souvent l'Esprit de Dieu qui habite dans mon cœur, cette partie spirituelle et invisible de moi. Et que toutes les Écritures, tout le Nouveau Testament précise que l'Esprit de Dieu habite dans mon corps physique. Et Paul continue ici en disant « Ne livrez pas vos membres au péché comme des armes, des outils au service de l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus des morts, afin que vos membres soient des armes, des outils pour la justice. » Toujours cette grâce qu'on fait apparaître sur la terre. Et le péché ne dominera pas sur vous. J'ai changé de règne, j'ai changé de camp, je n'appartiens plus à la loi et à la culpabilité. Ces mécanismes, ces moteurs ne marchent pas sur moi. Je marche à la grâce, à l'amour et à l'espérance. C'est ça mon carburant aujourd'hui, la foi. Mais je suis trop habitué à ces anciens chemins. Et quand ils me menacent, ou quand ils ont prise sur moi, j'ai du mal à croire qu'ils sont réellement sans pouvoir. Et je les crois puissants, et je les crois capables sur moi, alors je m'y soumets. Pourtant j'ai été libéré, j'ai été affranchi, j'ai été déraciné de ce royaume de ténèbres pour être planté comme un arbre de vie dans le jardin même de mon Dieu. Comment exercer cette foi? Comment développer cette foi? On dit que la foi est un don de Dieu. Enfin, qu'on le dit, c'est que c'est écrit. Oui. Et en même temps, je pense que cette foi que j'ai reçue, quelle que soit sa taille, à moi de l'éprouver, à moi d'apprendre à marcher selon elle. Certaines choses j'y arrive, pour d'autres j'y arrive pas. Ça dépend de votre expérience, ça dépend de votre vécu. Je connais des personnes dans cette église qui me disent « Oui, bon ben l'argent, c'est pas le plus important. » Et ceux qui me disent ça dans la foi, c'est pas parce qu'ils sont riches, mais c'est plutôt l'inverse, parce qu'ils ont connu les moments où le frigo était vide, ils ont connu les moments où les huissiers passent, et ils ont vu la main de Dieu à l'œuvre. Alors ils disent « Oui, non, mais ça, je sais faire confiance à Dieu sur ça. » D'autres, ça va être peut-être la maladie, d'autres, ça va peut-être être les relations familiales, d'autres, ça va peut-être être le travail. Dans quel domaine est-ce que je sais mettre en œuvre ma foi, m'appuyer dessus, m'en servir vraiment comme des bâtons de marche pour persévérer et pour aller peut-être là où je ne suis jamais allé, m'ouvrir à une vie que je n'ai jamais connue. Tout est grâce, tout est donné. Et vous connaissez la blague de Moïse qui veut gagner au loto à tout prix. Moïse vient voir l'Éternel et demande « Seigneur, je voudrais gagner au loto. » Seigneur, j'ai été fidèle dans toute ta maison, j'ai conduit ton peuple jusqu'à la terre promise, je ne suis même pas rentré, j'ai jamais rien pris pour moi. Il y a une chose que j'aimerais te demander, c'est vraiment, Seigneur, je voudrais gagner une fois au loto. Et pendant un mois, inlassablement, Moïse jeûnait et prie l'Éternel pour gagner au loto. Puis au bout d'un mois, il y a un ange qui apparaît et qui dit, Moïse, Moïse, Dieu t'a entendu. Dieu t'a entendu, il va répondre à ta prière, mais avant cela, il va te demander de faire une chose que tu n'as jamais faite. Et une fois que tu l'auras faite, tu n'auras plus à le refaire jamais. Moïse, achète un ticket de loto. » Parfois j'aimerais être soulagé, déresponsabilisé de ma vie, que Dieu m'enfile comme une marionnette sur sa main et qu'il fasse tout à ma place. Parfois quand on chante « Je t'abandonne toute ma vie, Seigneur, prends tout, règne sur moi », on aimerait cet abandon où je ne suis plus en situation de responsabilité et de choisir et de décider et d'agir. C'est une mauvaise nouvelle pour vous, ça n'arrivera jamais. Parce qu'il nous aime et qu'il veut faire de nous des adultes parfaits, capables de régner sur tous les aspects de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce que je suis, tout ce que je dis et tout ce que je fais sera une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Ça, c'est le but de Dieu. Il ne va pas nous lâcher, aucun d'entre nous. Et le jour où il reviendra dans sa gloire, en un instant, vous serez tous changés en ce type d'hommes et de femmes pour l'éternité. Alors non, il ne va pas m'enfiler comme une marionnette et faire les choses à ma place. C'est tout l'inverse. Il va me laisser me planter 2500 fois s'il faut, pour qu'à la 2501e fois, je comprenne quelque chose. Et il va développer cette persévérance et cette patience envers chacun d'entre nous, parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Il va nous écœurer de notre péché par cette surabondance de pardon dans nos vies. Et tout le temps dont nous aurons besoin pour oser franchir ce pont, oser peser sur cette foi qu'il a mis en nous, la mettre en œuvre, eh bien, il nous l'accordera. Et à la fin, nous deviendrons un peu plus adultes, un peu plus responsables, un peu plus matures. Et pas autonomes dans le sens affranchi de Dieu, mais autonomes dans le sens « j'ai compris où tu veux aller, Seigneur, j'y vais ». Alors, frères et sœurs, avec moi, j'ai presque envie d'enlever la chair, enlever cette distance entre vous et moi, ben je vais le faire. Parce que ce que je vous dis là, on en est vraiment au même point et je ne suis pas plus avancé que vous. Il y a beaucoup de choses que je prêche que je ne sais pas faire, hein. Celle-là particulièrement. Nous avons reçu en nous un puits de liberté dans lequel on peut venir chercher pour changer la façon dont on vit. Nous ne fonctionnons plus à la peur, ce n'est plus notre carburant. Nous ne fonctionnons plus à la culpabilité, ce n'est plus notre carburant. Nous ne fonctionnons plus à la honte, ce n'est plus notre carburant. Nous ne fonctionnons plus à la violence, ce n'est plus notre carburant. Ce sont les carburants du monde. Vous avez été arrachés de ce monde et plongés dans le règne du Christ. Nos carburants à nous maintenant, c'est la persévérance de Dieu, la patience de Dieu, l'amour sans limite de Dieu, le pardon sans cesse répété de Dieu, l'espérance que nous avons en Dieu. Mais curieusement, c'est les anciens carburants qui marchent plus sur nous que les nouveaux. Et on va plus facilement réagir à ces anciens carburants qu'aux nouveaux, alors que nous avons reçu une nouvelle nature. Alors désintoxiquons-nous tous ensemble de ces vieilles habitudes et apprenons à fonctionner selon ce que notre Dieu nous a donné dans son amour en Jésus-Christ. Amen.